Avez-vous déjà remarqué à quel point la fertilisation des connaissances s'apparente au classement temporel des structures binominales ? Moi non plus. Implacable. Après avoir lu l'illisible, il est temps d'écouter l'inaudible. Volume 2. Walter Proof, vous écoutez l'inaudible, le podcast de l'illisible, http://walterproof.free.fr/l'illisible. Vous avez été très nombreux à écouter le premier épisode. Au moins trois. Merci. Dans cet épisode 2, des fulgurances, des problématiques, des questionnements, de la musique inaudible. Bref, si vous ne cherchez rien, c'est bien ici que vous l'entendrez. Bonne chance. À en croire la Bhagavad Gita, nous sommes tous ou avons tous été peu ou prou d'une manière ou d'une autre et à un moment quelconque de notre existence terrestre, sous un prétexte fallacieux ou d'une façon délibérée et impérieuse, une belle bande de nazes. Que répondre à cette assertion ? Trois choses. La propension qu'a l'humanité à se juger de manière excessive est bien connue et consternante et ne mérite pas qu'on s'y attarde outre mesure. Deuxièmement, s'il est vrai que l'attitude péritonéale permet de tels errements, il n'y a pas grand-chose à dire de toute entité s'appropriant indûment son mode de pensée. Et enfin, pour qui se prend cette Bhagavad machin chouette pour se permettre de tels jugements de valeur, aussi paradoxaux que péremptoires ? D'ailleurs, qui c'est que c'est que cette gonzesse ? Et de quoi qu'elle se mêle ? Voyons ça sans perdre un instant. Née en 1222 avant Jésus-Christ, dans la banlieue de San Francisco, la petite Bhagavad Gita grandit d'abord en parfaite harmonie avec son entourage immédiat, son tonton Georges et sa tata Lucien, tous deux ébénistes sur glace, diplômés de la faculté de Ceylan. C'est lorsqu'elle atteint la puberté que tout se dégrada rapidement, et si je puis dire, inexorablement. Dès lors qu'elle eut 13 ans, la petite Bhagavad se présenta partout comme une révélation de Krishna en tant qu'incarnation de Vishnu, ce qui ne manquait pas de toupet, vous en conviendrez, d'autant que certaines personnes, particulièrement crédules, tombaient parfois dans le panneau. Car comment croire que cette péronnelle, qui n'avait de toute évidence aucun talent particulier ni pour l'ébénisterie, ni même pour la riflette, domaine dans lequel Krishna était mondialement et fort justement renommé à l'époque, puisse être une révélation ? Eh bien, croyez-moi ou non, mais son petit manège finit par marcher. Si bien qu'à l'âge de 17 ans, la jeune Bhagavad abandonna lâchement oncle et tante dans leur misérable boutique pour monter à la capitale en char à bœuf, accompagnée par son amant, le jeune et fourbe Vishnu, dont elle se prétendait l'incarnation, si vous vous souvenez bien. Jimmy Krishna, qui l'a reçu dans son studio d'enregistrement, s'en rendit compte instantanément. Bah tiens, faut pas la lui faire à Krishna. Tant et si bien qu'il la renvoya de ce pas dans ses pénates, où elle retourna la queue basse et les pieds palmés, ce qui donnait un charme indéfinissable à sa démarche, certes, mais ne facilitait pas la motricité. Quand elle rentra chez elle, 27 ans plus tard, son char à bœuf ayant plusieurs fois crevé, son tonton Georges et sa tata Lucien étaient décédés depuis belle lurette, et la jeune Bhagavad toucha un fort bel héritage, ma foi, ce qui lui permit de passer le reste de sa vie à écrire des bêtises pour critiquer la société qui, soi-disant, ne lui avait pas fait de cadeau, mais après tout, dites donc, elle est gonflée celle-là quand même, non ?
Maison Blanche et Jussieu. Je répète, en raison du
Comment expliquer que la concomitance entre la logique binaire et les groseilles rouges soit aussi totalement paradoxale? Personnellement, je ne me l'explique pas. Lao Tet Dan est un des maîtres à penser de la génération montante, enseignant intérimaire à l'université Paris 15, universellement reconnu par la plupart des gens pas trop cons comme un esprit phare de ce temps. Veuillez écouter maintenant un questionnement du professeur Tet Dan. Quelle attitude pour demain ? Lors du symposium de Lauragais sous Bernon, consacré aux métattitudes oblivionnelles chez les primatopathes mercantiliques, le 25 avril 1909, comme quoi ça ne date pas d'hier, le célèbre psychopharmaticien Étienne de la Bistrouquest avait fait sensation en déclarant « Le 31e siècle sera ou ne sera pas, ou je ne m'appelle pas Étienne de la Bistrouquest ». Cette déclaration péremptoire et ankylosée avait surpris l'ensemble de l'aéropage de l'aéroport où se tenait le colloque, par sa précision d'une part, son ambivalence d'autre part, et sa rectitude prophétique d'une troisième part. La quatrième part avait déjà été mangée lorsque je suis arrivé. La presse spécialisée de l'époque, Le Groin, Le Nouveau Marteau-Piqueur, La Gazette du Gazier, s'était longuement interrogée à grand renfort d'éditoriaux avisés sur les implications philosophiques et économiques de cette déclaration, et sa portée morale, sans toutefois réussir à trier le bon grain de l'ivresse. Il faut dire que les propos d'Étienne de la Bistrouquest étaient tellement novateurs pour l'époque, et son discours d'une telle imbitabilité, que l'embarras des écotiers nous apparaît avec le recul, sinon justifié, à tout le moins compréhensible. Aujourd'hui donc, près d'un siècle après cet épisode marquant, peut-on analyser un peu plus lucidement cette déclaration, et en tirer, sinon les vers du nez, au moins les leçons qui s'imposent? Chiche. Reprenons la formule précisément, et analysons-la un peu finement, si toutefois nous en sommes capables. Le 31e siècle sera ou ne sera pas? Jusque-là, rien à redire. Certes, nous n'en sommes pas encore là, le 31e siècle n'est même pas encore une lueur dans l'horizon restreint mais infini de la chaîne alimentaire du temps, mais nous pouvons à tout le moins envisager la situation d'une oreille sereine. Et dire, de plein pied avec le génial visionnaire, oui, le 31e siècle sera. Ou ne sera pas. C'est selon. Voilà au moins une bonne chose de faite. Deuxièmement, ou je ne m'appelle pas Étienne de la Bistrouquest. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que l'édifice s'écroule, que le rideau se déchire, que le lait se sauve. C'est là que l'échelle du savoir se fissure. Car il faut bien le révéler publiquement aujourd'hui, quitte à provoquer un séisme culturel sans précédent, non, Étienne de la Bistrouquest ne s'appelait pas Étienne de la Bistrouquest. Et je le prouve. Les registres de la paroisse de Saint-Exigu dans la Bièvre sont formels. Étienne de la Bistrouquest est né de père inconnu et de mère méconnaissable le 2 janvier 1868 à 8h15, peu après l'Angélus. Pour un 2 janvier, il faisait plutôt tiède, nous apprennent les mêmes registres, jumelés à l'époque avec ceux de Météo France. Élevé par la mère Pigeon, concierge de la maternité catholique pour jeunes filles perdues, il fera toutes ses études sous le patronyme d'Honoré Pigeon. Les archives du Sacré Collège de Saint-Exigu en attestent. C'est probablement en 1888, à la veille de ses 20 ans, qu'Honoré décide de changer de nom. Les registres d'état civil de Plaisiosor-le-Muret, où il réside alors, n'en démordent pas, il n'y a aucun Honoré Pigeon sur les listes électorales, alors qu'on y trouve, en bonne position, un certain Étienne de la Bistrouquest. Il faut se faire une raison, Étienne de la Bistrouquest ne s'appelait pas Étienne de la Bistrouquest. Et le postulat sur lequel s'est construite toute la philosophie moderne s'écroule. Non, le 31e siècle ne sera pas ou ne sera pas. Ce qui change tout, ne trouvez-vous pas ? Moi, si.
This is an excerpt of our new album.
Ok, on écoute un peu de musique maintenant dans l'inaudible. Voici Mick et Yann, le duo magique de Happy Gemini 3. Ça s'appelle To the Top Again, entendu sur le PodSafe Music Network. On se retrouve dans 6 minutes. We'll be right back. C'est inaudible, c'est sur l'inaudible. Par malchance ou par précaution, toute manipulation tendancieuse des contraintes ne peut que renforcer la qualité primale des suppositions. Je le suppose en tout cas. C'est la fin de ce deuxième épisode de l'inaudible, le podcast de l'illisible. Si vous l'avez trouvé effectivement inaudible, vous pouvez laisser un commentaire avisé ou une girafe diplomatique sur le blog de l'illisible http://waterproof.free.fr/l'illisible ou sur le site de téléchargement de l'inaudible http://wproof.podemus.com. Je suis Walter Proof, comme d'habitude. Bonsoir, et à bientôt, peut-être.